Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici de nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Maya Canaan Mako, Avant qu'elle s'en aille. Freestyle. Bien plus tard, jeune adulte, j'ai interrogé ma mère sur ce que nous avions vécu comme un abandon de sa part. Pourquoi avait-elle déserté la maison, reprenant subitement un emploi alors que jusque-là elle n'avait travaillé que ponctuellement ? Pourquoi avait-elle entrepris des formations l'été au lieu de passer ne serait-ce que quelques jours de vacances avec nous ? Pourquoi rentrait-elle tard le soir, à l'heure où nous étions déjà couchés ? Pourquoi avait-elle agi dans un double mouvement, se comportant comme si rien n'avait changé dans notre existence, tout en nous fuyant autant qu'elle le pouvait ? Elle a répondu, laconique, bottant en touche, comme elle sait si bien le faire. Je pensais qu'il ne pouvait rien vous arriver. Je n'ai jamais eu peur pour vous. Je savais que vous feriez vos expériences et que vous trouveriez votre chemin. Il est vrai que nous avions l'âge du début de l'indépendance et de l'autonomie, mais nous étions dans cette période d'entre-deux qui fragilise ou consolide le socle de l'enfance. Ma question avait donc le goût du reproche, et sa réponse n'en était pas une. À l'époque, nous avions déjà compris qu'elle ne ressemblait en rien à une mère sacrificielle. Pendant qu'elle fuyait notre tristesse et la sienne, nous expérimentions la fin de l'enfance et le début de l'adolescence sans parents. Car si elle avait su être mère au contact et dans le regard de mon père, sans lui, soudain, elle ne savait plus. C'est pourtant une période à la fois très heureuse et malheureuse qui débute, tant l'adolescence chamboule tous les paradigmes de l'existence. J'ai le sentiment d'être une chenille qui a terminé sa mue et vient de se transformer en papillon. Un beau papillon noir et blanc, je découvre qu'on me regarde. Je ne suis plus transparente. Je ne suis plus timide, plus maladroite non plus. Et je ne fais plus tout ce qu'on attend de moi. Je suis fâchée et ma colère devient mon allié. En réalité, elle me permet juste de faire face. Je sors beaucoup, je traîne beaucoup, je fais tout beaucoup et cette liberté est grisante. Alors que mon frère est sérieux, je suis rebelle. Alors qu'il est responsable, je recherche le danger. Alors qu'il travaille bien, je redouble. Alors qu'il fréquente de jeunes gens sages et raisonnables, je fréquente ceux qui, comme moi, cherchent les limites un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Alors qu'il a une amoureuse, mes expériences sentimentales sont calamiteuses. Mais nous sommes les soldats de notre nouvelle existence. Nous assistons notre coéquipier, le défendons lors des attaques, le portons lorsqu'il flanche, le soignons lorsqu'il est blessé. Il est ma mère, il est mon père, il est ma sœur et mon frère. Il me soigne lorsque je suis malade, me rassure quand j'ai peur, se fâche lorsque je prends des risques. Je le soigne lorsqu'il est malade, le rassure quand il a peur, mais je n'ai pas encore besoin de me fâcher. Il ne prend pas encore de risques. un samedi après-midi. Ce samedi-là, je dois avoir 14 ans. J'ai passé l'après-midi dehors avec des amis et tandis que je remonte la colline, je me sens lasse, fatigué. Je me traîne dans les escaliers de l'immeuble. Mes jambes ne me portent plus. Il me semble que ces deux étages sont aussi éprouvants que l'ascension de l'Everest. Lorsque j'arrive dans l'appartement, ma mère s'apprête à sortir. Elle est embêtée de me voir dans cet état. Elle me prépare une tisane, pose le thermomètre et le téléphone à côté de mon lit, puis s'en va. Je ne comprends pas bien qui je suis censé appeler en cas de besoin. Les téléphones portables n'existent pas et elle est partie au théâtre. Lorsque Jean-Célim rentre, la fièvre est encore montée. Il me donne à boire, va me chercher une aspirine et attend assis par terre au pied de mon lit que la température redevienne acceptable. Je suis soulagé de ne plus être toute seule. Lorsque ma mère rentre, Jean-Célim est furieux. Je les entends se disputer dans le couloir avant de sombrer dans le sommeil. L'accident. Un autre coup de téléphone, un autre regard paniqué de ma mère, même scène. J'ai la tête qui tourne, la respiration coupée. Mon frère n'est pas là, c'est de lui qu'il s'agit. Parti en voyage scolaire à la montagne. Il est tombé à ski, s'est relevé, il a eu mal, hémorragie, hospitalisation. Il a des kystes dans les reins. Polykystose rénale, hérédité d'un père qui vient juste de mourir. Tout seul dans un hôpital du nord de l'Italie, à 600 km de chez nous, dans un service d'urologie où ses camarades de chambre ont en moyenne 75 ans. Des mois immobiles. Des mois à boire des litres et des litres d'eau pour évacuer le kyste. Il se renferme, devient taciturne. Il sombre doucement. Je vois bien qu'il va mal. J'ai l'impression d'être la seule à ne pas faire comme si tout était normal, comme si tout allait bien. Nous ne sommes pas fous puisque nous sommes deux, et nous ne le deviendrons pas pour la même raison. La maladie le contraint à délaisser son rêve d'enfant. Il comprend qu'il ne sera pas pilote, lui qui trépigne depuis qu'il marche chaque fois qu'il monte dans un avion, lui qui regarde le ciel comme le lieu de tous les possibles, lui qui vénère Saint-Exupéry. Il ne sera jamais aux commandes d'un avion de chasse ou de ligne. Sa maladie l'exclut d'emblée des sélections. À ce moment-là, alors qu'il n'a pas encore 17 ans, il est juste perdu. Il connaît les contraintes et les conséquences de la maladie à long terme. Il sera sous surveillance. Il devra prendre des médicaments pour maîtriser sa tension, éviter les sports de contact et les sports violents. Plus tard, aux alentours de 50 ans, lorsque les kystes seront trop gros et si ses reins ne travaillent plus normalement, il faudra sans doute être sous dialyse comme notre oncle ou encore, si les conditions le permettent, subir une greffe. Lui qui se rêvait en aventurier tout-terrain et sportif voit à ce moment-là et dans un premier temps son futur amputé. Il s'apprête à quitter Rome pour faire ses études en France, bac en poche et tristesse en bandoulière. Je reste seul dans l'appartement vide. Seul. Lorsqu'elle se réveille, elle me sourit. Elle est heureuse de ma présence. Elle ne se rappelle plus pourquoi je suis là. Elle croit que je viens pour voir mes amis. Veut connaître mon programme. Propose de m'accompagner. Elle est disponible. Enfin disponible. Elle se redresse. Son corps intensif, svelte est lourd. Elle souffle, peine à remettre ses chaussures. Elle ne sait plus quelle heure il est, quel jour on est. Elle ne se rappelle plus les mois, les saisons. Ça a commencé par de petites hésitations. Une date à la place d'une autre. Un doute sur le prénom d'une nièce. De l'anxiété pour une fête de famille. ne t'éloigneras pas trop. » Elle m'a fait répéter l'horaire d'un rendez-vous, la date d'un voyage. Elle a mélangé les dates de nos anniversaires, souhaité les 13 ans de ma fille le jour de mes 45 ans. Puis elle a eu peur de se tromper, de ne pas savoir répondre, de se perdre. Elle a oublié des rendez-vous où s'est présentée pour déjeuner chez des amis un jour où elle n'était pas attendue. Peu à peu, elle a perdu confiance, n'a plus osé reprendre son téléphone avec l'assurance d'autrefois, elle s'est faite plus discrète. En retour, les invitations sont devenues plus rares. Elle, qui a arpenté la planète de long en large, rêve de voyage devant son ordinateur. Je crois aussi qu'elle pleure lorsque je ne suis pas là. Elle pleure sur ce monde devenu trop étroit. Notre distance me peine. Elle s'est construite pourtant au fil de nos vies. Elle a été voulue. Je la revois impératrice de notre petit cosmos, détachée de nous, captivée ailleurs. Un temps, nous n'avons été que des personnages secondaires, de pauvres chéris. Un jour, dans la cuisine, j'ai 16 ou 17 ans, elle me dit sans penser me blesser, je le vois bien, aucune méchanceté, mais un constat honnête, tu sais, je n'ai jamais vraiment pensé avoir des enfants. Mais puis, passé 30 ans, je me suis dit que c'était triste de vieillir seul. Nous n'étions pas malheureux, juste un peu coupés de sa chaleur. Elle la déployait pourtant en société. Elle était faite pour le monde, pour les rencontres, pour les combats d'idées. Elle avait soif de connaître, de découvrir l'autre, surtout lorsqu'il était différent d'elle. Mais aujourd'hui, elle me cherche. Je suis la famille qui lui reste, et au fond, quand il ne reste rien, il reste la famille. Elle m'appelle, ne comprend rien à mon répondeur, s'énerve, raccroche et recommence. Elle m'envoie des mails 3-4 par jour, parfois plusieurs fois le même. Elle se fâche d'être si loin, en veut aux autres de cette distance qu'elle a elle-même instaurée. Elle qui a quitté sa famille, son milieu protestant et bourgeois, elle qui nous a tenus à distance, nous, ses enfants, cosmopolites, et qui voudrait maintenant pouvoir s'évader encore, fuir son conjoint et cette famille romaine soudée, aimante, avec enfants et petits-enfants par alliance. Elle voudrait, par moments, mais elle ne peut plus. Parfois, elle explose. On m'appelle, alors je viens. Au début, plutôt pour soulager son mari. Peu à peu, c'est pour elle que je suis venu, pour ce qu'il y avait au cœur de ses contradictions. Je cherche à comprendre ce qui l'a poussé à sauver sa peau, à se construire un avenir sans se préoccuper de nous. Parce que sa solitude me peine, parce qu'au fond, il n'y aura jamais d'indifférence entre nous et que j'entreaperçois au bout de notre chemin commun que je suis capable de reconnaître sa tendresse. Parce qu'à n'en pas douter, mon père et elle se sont aimés et nous ont aimés. Parce qu'aimer pour elle et pour moi ne passe pas par des mêmes chemins sensibles. Et si je lui en veux encore, je dois épuiser ma rancœur pour ne rien attendre qu'elle ne sache offrir et pour la laisser partir le moment venu avec tendresse.
Mon père disait, c'est le vent du nord qui fait craquer les digues à Scheveningen. À Scheveningen, petit, tellement fort qu'on ne sait plus qui navigue la mer du Nord, bien les digues. C'est le vent du Nord qui transperce les yeux des hommes du Nord, jeunes ou vieux, pour faire chanter des carillons de bleu venus du Nord. Au fond de leurs yeux, mon père disait, c'est le vent du nord qui fait tourner la terre autour de Bruges, petit. C'est le vent du nord qu'à raboter la terre autour des tours de Bruges, et qui fait que nos filles ont le regard tranquille des vieilles villes, qui fait que nos belles ont le cheveu fragile de nos dentelles, mon père disait, c'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges, petit. C'est le vent du nord qui a fait craquer la terre entre ses bruges et l'Angleterre. Et Londres n'est plus comme avant le déluge, le point de Bruges narguant la mer. Londres n'est plus que le faubourg de Bruges, perdu en mer, perdu en mer. Mais mon père disait, c'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme et sans colère. C'est le vent du nord qui portera en terre mon corps sans âme face à la mer. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-lames ou d'une baleine. C'est le vent du nord qui me fera capitaine d'un brise-lames pour ceux que j'aime.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après l'instant musical, nous revenons donc à la suite de notre roman. Grandir. À côté, sur le bureau, dans cette pièce qui m'aimante, il y a deux photos de mon frère et moi. Deux photos prises sur la terrasse. Sur l'une, comme sur l'autre, nous posons enfants, puis adolescents, souriant face à l'objectif. Même mimique, même complicité affichée, tête contre tête, bras dessous, année après année. Sur la première, nous sommes habillés en afghan. Mon père nous a rapporté des costumes traditionnels et je suis en train de nous verser une tasse de thé pour de faux. Et j'arrive parfois à embarquer mon frère dans mes jeux. On dirait que je serais vendeuse, on dirait que je serais maîtresse. Mais le plus souvent, c'est concours de judo, parcours de billes, circuit de petites voitures, voyages spatiaux, et tant qu'il reste du temps pour se raconter des histoires, ça me va. Sur la deuxième photo, nous ne jouons plus. Nous sommes de très jeunes adultes de 16 et 18 ans. Ce doit être l'année du bac pour Jean Selim. Nous n'avons pas les mêmes amis, même si parfois dans les fêtes ou au pub où tous les jeunes des écoles étrangères de Rome se retrouvent, nos mondes se rejoignent. Ils se refusent à ce que je rencontre ses copains. Ne voudrais surtout pas que je tombe amoureuse de l'un d'eux. Il est possessif, un peu jaloux. Ça me fait rire parce que ça veut dire qu'il tient à moi. Je ne fréquente pas son cercle. J'ai ma bande d'amis, nous sommes les inséparables. Nous passons d'un appartement plus ou moins vide à l'autre, de fête en fête, de bande en bande. Nous voyageons l'été, sac sur le dos, et passe interrail en poche, de plage en plage, de ville en ville. Nous arpentons l'Europe et découvrons le monde avec allégresse et curiosité. Nous sommes des filles sans père, ou avec des pères en pointillés, élevés par des mères qui n'assument pas toujours leur monoparentalité forcée. Nous expérimentons ensemble, nous construisons des frontières approximatives, nous établissons nos propres règles. Et puis je tombe amoureux d'un peintre pensionnaire à la Villa Médicis. Quand mon frère l'apprend, il me dit « Mais il est vieux !» Ça ne m'atteint pas. Au contraire, j'en tire une certaine fierté. J'ai 17 ans et mon amoureux en a 30. Alors il attaque à nouveau d'un misérable « Ah, j'aime pas sa peinture !» Je rigole franchement. S'il y a un domaine où il n'est pas crédible, c'est bien celui-ci. Mon amoureux a fait les beaux-arts et obtenu le prix de Rome. Je trouve mon lourdeau de frère assez mal placé pour juger de son talent. J'aime sa peinture et je l'aime, lui. Je fais l'amour pour la première fois dans l'atelier d'Ingres. Et je me fiche de ce que mon frère peut bien penser. Deux pas en avant. Quand je suis né, il était déjà là, deux pas en avant. Je connais l'avantage que cela représente d'arriver en second, d'avoir le temps de voir son aîné expérimenter en première ligne, vous laissant le temps de le regarder faire avant de vous lancer. Pour cela, je lui pardonne beaucoup depuis toujours. Je lui pardonne de me faire tomber volontairement de mon berceau, de me faire punir à sa place, de me raccrocher au nez lorsque j'ai mon bac avec mention. Je lui pardonne sa possessivité comme si j'y voyais depuis toujours une fragilité qui me touche et qui est bien peu de choses à côté de sa tendresse. J'ai 4 ou 5 ans, c'est le soir de Noël, je suis déjà couché. Je l'entends qui entre dans ma chambre à pas de loup et chuchote « Maya, viens !» Il me tire par le bras. Je lui dis qu'il est tard, que je veux dormir. Il insiste. « Mais on va voir le Père Noël !» Je sors de mon lit, attrape mon doudou et je suis. De là où nous sommes, cachés derrière le canapé du salon, on peut voir la crèche et le sapin sans être vu. Le temps passe. La nuit noire s'étire sans fin. Les parents dorment. Tout est silencieux. Je me frotte les yeux et lui dis « Je suis fatigué et j'ai froid. » Il part chercher des couvertures, installe une sorte de campement sur la moquette et me dit « Voilà. » Je sais qu'il va veiller. Il a décidé à ne pas fermer l'œil. Je m'endors. À l'aube, il me réveille tout excité. « Maya, il y a du bruit. Ça y est, il arrive. » Nous nous postons tous les deux à l'endroit où on voit le mieux. Nous découvrons mon père à peine sorti du lit. Il est en robe de chambre et s'apprête à déposer les cadeaux au pied de l'arbre. Nous l'observons en silence. Nous n'échangeons pas un mot, pas même un regard. Notre déception est immense. Mais nous n'en disons rien. Nous repartons nous coucher, traînant derrière nous nos couvertures. Ma trajectoire ne croisera plus celle de mon frère, ce garçon décidé et curieux, aimant et jaloux, ce garçon drôle et délicat, doux et généreux. Nous ne vieillirons pas ensemble. Au cœur de nos silences. Au regard des choix que mon frère a faits par la suite, je voudrais que ma mère dise qu'elle aurait dû le retenir, l'empêcher de partir, mission après mission. J'aimerais, et c'est presque sadique tant c'est douloureux, l'entendre pleurer sur la vie que nous aurions pu avoir si elle avait essayé de le dissuader. Je voudrais l'entendre dire qu'elle n'avait pas besoin qu'il soit un héros, qu'il n'avait pas besoin de sauver le monde. Je voudrais qu'elle sente que sa sacro-sainte liberté était notre entrave, notre talon d'Achille. J'aurais voulu qu'elle prenne la mesure du danger, qu'elle s'y oppose, qu'elle vacille. J'aurais aimé qu'il puisse douter, hésiter, parce qu'elle le lui aurait demandé. Il n'y aurait pas ce vide, ce fossé creusé par notre incompréhension. Ma peur qu'il lui arrive quelque chose. Son incapacité à prendre la mesure du danger. car ma mère n'a jamais envisagé le danger autrement que comme une belle idée romantique. Elle s'en est abstraite. Ma mère flotte. Danger est le mot qui permet de faire valoir le courage. Il n'est pas une menace, il est une idée, un principe. Jusqu'au jour, jusqu'à ce jour où il blesse ou tue. Je la regarde. Son front est plissé, son regard fermé. L'armure est coriace. Elle m'apparaît enfin comme une enfant pleine de détresse, une enfant parmi les autres, la plus à même de prendre sur elle puisqu'elle est l'aînée, une enfant de la guerre, séparée de ses parents, marquée par les absences et les disparitions, marquée par la peur et par les privations, marquée par la mort de son oncle aimé, le plus jeune, le plus drôle, mort, fusillé ou gazé, on ne sait même pas. On ne parle pas des choses qui font mal. On encaisse, on ne se plaint pas. Quel qu'en soit le prix, marque indélébile d'une éducation, partir loin, très loin. À défaut de pleurer, on peut partir. Mais l'héroïsme est là, dans ses veines. Elle le transmet sans y toucher, elle le transmet sans même en avoir conscience. Enfant, ce n'est pas elle qui nous parlait de la guerre. C'est notre grand-père qui le faisait. Il y revenait sans cesse, cherchant avec délicatesse mais détermination à nous mettre en garde contre la laideur du monde lorsqu'on ne défend pas la justice et la liberté, lorsque l'homme ne se met plus à la place de son voisin. C'est à mon frère qu'il s'adressait lorsqu'il parlait de l'indiscutable entrée en résistance, du combat malgré la peur, palpable tant d'années après. J'étais spectatrice. Mon frère était l'élu. Celui à qui on transmet le flambeau de la conscience du monde. Si j'avais été là. Et puis ma mère, dans le silence de son bureau, dans cette pièce où nous sommes côte à côte au milieu de ses souvenirs, répond indirectement. Alors que je pense qu'elle va me parler de mon frère, il n'en est rien. Sa voix est claire, calme. Pour la première fois, elle évoque la mort de mon père. Si j'étais resté avec lui, j'aurais pu appeler les secours et on aurait peut-être pu le sauver. Puis, si j'avais été là, il ne serait pas mort tout seul à l'autre bout du monde. Trop de si, trop de peut-être, trop de regrets tardifs et inutiles. Mais qui, formulé ainsi, s'envole et nous rapproche, nous laissant un peu plus en paix. Parce que son silence n'était finalement pas de l'indifférence. Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette lecture que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.